Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bien, bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct pour cette édition littérature qui sera consacrée à la critique du livre Master and Apprentice de Claudia Gray. Je suis Jean-François et pour discuter du roman, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis.
Bonsoir Jean-François.
Alors Francis, que s'est-il passé dernièrement côté Star Wars ou côté geek pour toi?
Eh bien, une des choses que je partage avec toi dans mon WhatsApp, c'est notre super réunion très productive qu'on a eue ensemble à Ottawa.
Oui.
Sur l'avenir de Star Wars en direct.
Oui.
Donc, on peut évidemment pas tout dévoiler, mais je pense que ça a été, comme je disais, très productif puis très emballant là, pour l'avenir. Donc, c'est évidemment ça a pris un peu de temps. Sinon, moi, je suis dans le... J'avais des vacances récemment, fait que j'ai rattrapé pas mal de comics, j'avais pris un peu de retard. Et puis, tant qu'elle est en vacances, puis il n'y a pas encore... ma commande de livres en France avait été retardée. Fait que je me suis dit, je vais attaquer le seul livre de Star Wars en français que je possède, que j'avais pas lu, et c'est Last Shot. En français, Baroud d'honneur.
Ah, donc, ça c'est le livre de Lando Beyond, là.
Exactement. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'on avait tous les deux fait la critique de ce livre-là il y a environ un an.
Oui.
Donc, je me disais que les différentes critiques qu'on avait à propos de ce livre-là, je me disais peut-être qu'en version française, ensuite en version papier, parce que c'était en audio que je l'avais pris l'année dernière, et peut-être qu'aussi avec du temps libre pour le lire en un seul coup, tu sais, d'un bout à l'autre sans arrêt, là, ou presque, là, j'ai lu ça en quelques jours à peine. Donc, je me disais que peut-être que ça viendrait aider, parce que c'était quand même un récit dur à suivre avec 14 timelines différentes. Et finalement, non. Finalement, c'est juste un livre beaucoup trop compliqué, beaucoup vraiment mal écrit, qui demande un degré de concentration vraiment trop élevé. Fait que c'est ça. Honnêtement, là, un an plus tard, je pense que je le recommanderais uniquement... à ceux qui veulent absolument une genre de suite à la trilogie Riposte, là, parce que ça se passe vraiment tout de suite après. Il y a même quelques petits personnages qui reviennent, mais c'est ça. Autrement que ça, là, Baroud d'honneur, il y a d'autres livres meilleurs que ça dans le canon.
Ouais, vous manquez rien si vous l'avez pas lu puis avant de voir le film Solo ou quoi que ce soit. Là.
Non, ça non plus, évidemment. C'est sûr que si vous voulez un peu d'action avec L3 puis Lando, il y en a un petit peu, là, mais c'est ça. C'est prévoyez du temps libre parce que vaut mieux le faire en one shot que faire des grosses pauses. C'est très dur de s'y remettre. Bref, c'est ça pour mon WhatsApp, Jeff.
Excellent. De mon côté, comme toi, juste pour venir un peu sur le week-end qu'on a eu pour Star Wars en direct, ce que j'ai trouvé super cool, c'était juste le fun de qu'on se retrouve toute l'équipe du Québec ensemble. Ça, c'était le fun parce qu'habituellement on enregistre pis on n'est pas tout le temps ensemble quand on enregistre, même que c'est très rare qu'on est ensemble. Donc ça, c'était le fun d'avoir tout le monde en même temps, puis comme tu dis, je pense que ça a été extrêmement productif pour l'avenir de Star Wars en direct. À part ça, j'ai commencé à écouter l'audiobook de Tron Treason qui est sorti aujourd'hui. Je suis rendu au chapitre 8, je crois. C'est très bon.
Ouais, jusqu'à maintenant, t'es satisfait?
Jusqu'à maintenant, je suis satisfait. J'ai des points un peu, pas négatifs, mais j'ai des choses qui m'agacent. Mais ça, je pense que c'est l'univers étendu en général, l'univers canon. Je pense que c'est ce qui arrive avec les livres. Mais bon, je vais en parler pendant ma critique de Master and Apprentice, parce que ça vient toucher un peu ça.
OK.
Mais c'est bon, parce que ça continue l'histoire avec les Grisk et tout. Là, donc, si vous avez lu, vous devriez lire Alliance avant de lire celui-ci. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre tout. C'est quoi le conflit exactement qu'il y a dans le livre.
Et ça tombe bien parce que même pour ceux qui le préfèrent en français, il vient juste de sortir, Alliance.
Ah oui, c'est vrai.
Sorti la dernière semaine de juin. Donc, normalement, il est disponible dans toutes les bonnes librairies en espérant que vous soyez du côté européen.
Ouais.
Et pour nous en Amérique du Nord, ben, il est disponible sur Internet. Là.
Ouais, c'est ça.
Commandez-le outre-Atlantique comme moi.
Ouais. Donc, c'est pas mal ça côté Star Wars pour moi ces dernières semaines.
Mm-hmm.
Donc, on va vous rappeler nos plus récentes émissions. On a eu notre spécial du Comic-Con de Montréal, qui est notre Star Wars édition spéciale numéro 36. Et aussi le Star Wars en direct Making of numéro 8, qui est dédié à la production du film du Retour du Jedi. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord, donc si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez en parler avec nous, ben gênez-vous pas, allez sur notre site starwars.direct dans la section recrutement. Et aussi nous avons une petite boutique sur starwars.direct, section boutique, où vous pouvez vous procurer des t-shirts avec le logo de Star Wars en direct. Et si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. On va en profiter pour remercier nos partenaires Mint & Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, notre sujet principal aujourd'hui est la critique du livre Master and Apprentice. Mais juste avant qu'on nous embarquons dans les critiques du livre, peut-être juste mentionner quelques petites nouvelles qui ont eu lieu, surtout au Comic-Con de San Diego, concernant les livres et romans et BD Star Wars. Francis, je crois que tu voulais mentionner quelque chose à propos de Dooku Jedi Loss.
Ben effectivement, notre précédente émission de Star Wars en direct littérature était sur Dooku Jedi Lost. Une belle surprise, je pense, là, quand même. Moi, j'avais été très agréablement surpris. Et les rumeurs voulaient qu'ils sortent éventuellement en livre. Ben, c'est à San Diego, au Comic-Con, qu'on a eu la confirmation de ça, plus une date. Donc, ça va sortir le 1er octobre prochain. Donc, en anglais, évidemment. On peut quand même espérer une version française de pas si éloignée dans le temps, dans la mesure où c'est pas un volume, c'est pas un très gros volume. En heure, là, il me semble c'était quelque chose comme 6 heures pour l'audio-drama.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, ça devrait être relativement plus rapide à traduire qu'un livre comme Trump, par exemple.
Mm-hmm.
Mais bref, c'est ça, une nouvelle. Comme ça restait une rumeur, tu sais,
il y en a
plusieurs qui étaient même révoltés là, que, que ça n'existe pas en version papier. Donc, on vous rassure, c'est maintenant chose officielle, ça va sortir. Et vous allez pouvoir les prendre. Ensemble, Master and Apprentice et Dooku Jedi Lost, deux œuvres qui vont vraiment de pair.
Oui.
C'est vraiment là, si vous prenez un, prenez l'autre aussi, ça va, c'est fait pour aller ensemble.
Ouais, exactement. Juste avant de commencer à parler du livre, et juste mentionner une petite surprise côté BD. Ils ont annoncé une BD consacrée à Kylo Ren,
mm-hmm.
Qui s'appelle The Rise of Kylo Ren. Donc, ça va être consacré à Kylo Ren et les Chevaliers de Ren. C'est une mini-série de 4 numéros dont le premier va être disponible le 20 décembre. Donc, pas avant la sortie de Rise of Skywalker.
Ouais, mais ça va quand même être intéressant d'avoir d'autres contenus. Le seul qu'on avait vraiment eu du développement dans la post-logie, c'était Poe Dameron.
Ouais.
En version comics, j'entends. Fait que là, ça va être intéressant là, de voir Kylo Ren. Je pense que c'est celui sur qui on avait quand même beaucoup d'interrogations.
Mm-hmm.
Fait que sur la couverture, on voit aussi les Chevaliers de Ren. Donc. Ça devrait être intéressant.
On va passer à notre sujet principal, qui est Master and Apprentice. Si on y va avec le synopsis du livre, et ensuite nous allons y donner notre critique. Le synopsis est comme suit. Une offre inattendue menace le lien entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, alors que les deux Jedi traversent une nouvelle planète dangereuse et un futur incertain. Un Jedi se doit d'être un guerrier sans peur, un gardien de la justice et un étudiant dans les voies de la force. Mais le devoir le plus important d'un Jedi est peut-être de transmettre ce qu'il a appris. Maître Yoda a entraîné Dooku. Dooku a entraîné Qui-Gon Jinn et désormais Qui-Gon a son propre Padawan. Mais tandis que Qui-Gon a fait face à toutes sortes de menaces et de dangers en tant que Jedi, rien ne l'a jamais autant effrayé que la pensée de décevoir son apprenti. Obi-Wan Kenobi éprouve un profond respect pour son maître, mais lutte pour le comprendre. Pourquoi Qui-Gon doit-il si souvent ne pas tenir compte des lois qui lient les Jedi? Pourquoi Qui-Gon est-il attiré par d'anciennes prophéties Jedi au lieu de soucis plus pragmatiques? Et pourquoi Obi-Wan n'a-t-il pas été informé que Qui-Gon réfléchit à l'invitation qu'il a reçue à rejoindre le Conseil Jedi, en sachant que cela signifierait la fin de leur partenariat? La réponse, très simple, l'effraie. Obi-Wan a déçu son maître. Lorsque le Jedi Rael Averroes, un ancien apprenti de Dooku, requiert leur assistance pour une dispute politique, Jyn et Kenobi se rendent à la cour royale de Pigeage pour ce qui pourrait être leur dernière mission ensemble. Ce qui devait être une mission de routine devient obscurci par la trahison et par des visions d'un désastre violent qui s'accroche à l'esprit de Qui-Gon. Alors que la foi de Qui-Gon en la prophétie s'accentue, la foi d'Obi-Wan envers lui est mise à l'épreuve. Au moment où une menace émerge, celle-ci nécessitant que le maître et l'apprenti soient liés comme jamais auparavant ou divisés pour toujours. On remercie Star Wars Universe pour la traduction du synopsis. Alors, si on y va avec nos critiques sans spoilers, donc pour ceux qui ne veulent pas qu'on s'aventure en territoire dangereux, Francis, si tu veux commencer?
Ouais, ben dans le fond, on va peut-être commencer par préciser que l'histoire se déroule en l'an moins 40, donc histoire d'être un peu plus clair pour les auditeurs, on parle de 8 ans avant la menace fantôme, donc on est à l'époque où Obi-Wan a 17 ans, donc il sort de l'adolescence et entre dans l'âge adulte. Avant d'aller plus loin, moi je mentionnerais que la couverture de ce bouquin-là, encore une fois, est magnifique, mais malgré tout, contrairement à d'autres émissions qu'on a faites par le passé, je préfère quand même une des exclusivités de ce livre-là, à savoir celle pour la célébration à Chicago.
Ouais.
Vraiment, là, dans laquelle on a droit à une scène du livre. Dans le fond, on a Qui-Gon et Obi-Wan dos à dos là, qui combattent une trolley d'ennemis. Mais bref, un petit message à Pocket Imaginaire ici, là, s'il nous écoute, clin d'œil. Ça serait pas pire que la couverture diffère de la version officielle américaine. Tout ça pour dire que, moi, une des premières choses qui m'a... je m'étais pas tant renseigné sur le livre avant de me lancer dedans. Je précise que je suis un grand fan du personnage de Qui-Gon Jinn et également de celui d'Obi-Wan. C'est quelque chose dans le canon qu'on n'avait pas encore... dans le fond, là, un backstory pour ces deux personnages-là. Et donc, ça a peut-être fait grimper mon anticipation pour ce livre-là. Je dirai un peu plus tard si j'avais trop d'anticipation ou pas. Mais bref, ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que le maître et l'apprenti, le master and apprentice, c'est très loin d'être seulement Obi-Wan et Qui-Gon. C'est en fait, je dirais plutôt que l'ensemble du livre tourne autour de ce thème-là et que, en réalité, on suit des relations de maître et apprenti de quoi un bon 4-5, j'allais dire couple, là, mais bref, partenariat ou équipe différente, là, comme vous voulez. Mais évidemment, tu l'as dit un peu dans le synopsis, mais on a Dooku avec Qui-Gon, on a Dooku avec Rael Averroes. Évidemment, Obi-Wan avec Qui-Gon. On a Rael aussi avec sa protégée, parce qu'on expliquera peut-être plus tard dans l'émission, mais c'est un Jedi, dans le fond, qui est devenu régent d'une planète. Régent, autrement dit, l'administrateur, dans le cas d'une monarchie, lorsque le monarque est trop jeune pour régner. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs relations de maître et d'apprenti. C'est très très loin de 100% autour d'Obi-Wan et Qui-Gon. Ceci étant dit, j'ai pas détesté le fait que c'est un livre bourré de stock en termes de lore pour Star Wars. Et vraiment, là, les amateurs comme moi de contenu sont vraiment satisfaits, et de la manière que Claudia Gray nous apporte ça, au lieu d'être comme quand on lit un beau livre, une encyclopédie, bon ben là cette fois-ci c'est au travers du développement de personnages de Qui-Gon, donc au travers de ses réflexions, de ses découvertes, etc. On a droit à énormément de lore, on a droit à du contenu pré-république, on va dire, ou t'sais, plus ancien que tout ce qu'on avait dans le canon jusqu'à maintenant. Sur, par exemple, le rôle politique et administratif des Jedi. Toutes sortes de choses comme ça. Des évidemment, on en parlera plus tard aussi, mais tout ça, les prophéties, les aspects de la force, on va dire, là, ou les façons de voir la force. Donc, j'ai bien aimé ça de la manière que c'est amené. Tu sais, c'est moins didactique là, que, justement, quand on lit ça dans une encyclopédie ou certains autres auteurs aussi qui l'apportent de façon un petit peu moins subtile, on va dire.
Ouais.
Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était du fanservice pour les tripeux de l'aspect spirituel dans Star Wars, entre autres. Donc, moi, c'est moins mon dada, personnellement. L'histoire des Sith, l'histoire de Lord Jedi, etc. Mais ceux que c'est ça qui font triper, ben, ils vont être servis avec ce livre-là. J'ai noté aussi, sans tomber dans les spoilers, que le thème de l'esclavage est encore très présent ici.
Mm-hmm.
Et nos deux dernières émissions, Jeff, c'était Queen's Shadow, ouais. Le livre sur Padmé, et Dooku Jedi Lost.
Ouais.
Et alors, je trouve que l'année 2019, là... C'est celle du thème de l'esclavage sous la République et de pourquoi les Jedi font rien et des conflits moraux que ça fait, etc. J'ai trouvé, ça fait trois livres en trois là, que ce thème-là revient. Bon, si on prend évidemment l'audio-drama comme un livre. Justement, parlant de l'audio-drama, les liens, on l'a mentionné un peu tantôt dans l'actualité, mais le lien avec Dooku Jedi Lost là, est frappant. La collaboration qu'il y a eu entre les deux auteurs là, paraît. Tu l'as mentionné tantôt, l'ordre importe peu. Je persiste à penser que Master and Apprentice doit peut-être être lu avant. Je sais que de ton côté, Jeff, tu préférais l'inverse, donc c'est toujours l'éternel débat dans quelle heure d'écouter les films, là,
trilogie,
qui revient. C'est ça. Sinon, écoute, ça reste quand même, tu sais, j'ai nommé quand même plusieurs affaires que j'ai appréciées. Pour plus critique un peu, je dirais que c'est une intrigue très classique. C'est la mission classique de Jedi, là, envoyé sur une planète, découvre une espèce de en tout cas, il y a Anguille sous roche, il y a Enquête, il y a des péripéties qui résolvent, bref. Tout ça, j'ai trouvé que... En tout cas, j'ai pas eu des grosses surprises, vraiment. Les retournements de situation, les dénouements, je les ai trouvés un peu prévisibles. Un peu trop dans le développement de personnages, mais je sais que ça, c'est une caractéristique beaucoup de Claudia Gray. Souvent plus dans le développement de personnages que dans l'action pure là, t'sais.
Mm-hmm.
Et quand il y a de l'action, ben c'est toujours du point de vue du personnage. C'est toujours décrit comme t'es dans la tête d'Obi-Wan ou t'es dans la tête de Qui-Gon, etc. Donc en faisant la somme de tout ça, pour moi ça sera ni le meilleur du canon ni le meilleur de Claudia Gray. Faut dire que Étoile perdue reste pour moi très très dur à battre là. Mais malgré tout, c'est pas un mauvais divertissement. Moi, c'est juste une légère déception, peut-être causée en partie aussi à cause de l'anticipation que j'avais pour le livre. Je m'en cache pas. De mon côté, je lui donnerais une note de 14 sur 20, donc un 70% pour Master and Apprentice de Claudia Gray.
Excellent. Alors, on est à peu près un peu dans la même veine. D'abord, je vais commencer avec ce que j'ai vraiment aimé. Première chose, Claudia Gray, faut y donner ça, elle comprend Star Wars. Ouais. Claudia Gray, elle vit Star Wars dans la façon qu'elle écrit. C'est une des rares auteurs qui, vraiment, là, dans son écriture, dans sa description, elle comprend exactement c'est quoi Star Wars, puis comment elle est capable de, un peu comme, je trouve, comme Timothy Zahn, est capable de nous faire visualiser ce qui est écrit ou ce qui est dit, là, si tu écoutes la version audiobook. Là.
Mm-hmm.
Mais tu le vois exactement comme si c'était... Tu le verrais dans... Tu sais, les scènes qu'elle décrit, tu les verrais complètement dans un film Star Wars. Là. Ça, je trouve ça... écoute, elle fait sa place, hein, on le sait. Elle a fait d'excellents livres. Lost Star, Bloodline... c'est tout des puis le livre sur la princesse Léa ouais. Mm-hmm. Tu sais, elle a pas fait de mauvais livre encore. Celui-ci, je dirais que c'est son plus faible des quatre. Ce que j'ai aimé aussi, comme tu as mentionné, comme l'histoire tourne beaucoup autour de la prophétie. et de la façon qu'elle a été interprétée, hein. La prophétie, comme la prophétie de l'élu, là, tout ça, c'est très subjectif. Chacun l'interprète à sa façon. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais comme Dooku le voit d'une certaine façon, Qui-Gon le voit d'une certaine façon, Obi-Wan le voit d'une autre façon. Donc, c'est chacun le voit d'une façon différente. Et c'est, on peut comprendre pourquoi il y avait tout ce conflit-là autour d'Anakin quand il a été présenté devant le Conseil Jedi, puis que Qui-Gon, pour lui, était convaincu que c'était l'élu. Puis que les autres Jedi, ils étaient tous un peu hésitants, puis tu sais, Mace Windu, il a tout le temps été pas contre, mais il était contre, hein. Finalement, Mace Windu, il a jamais été pour. Hein.
Effectivement.
Ouais, c'est ça. Donc, on comprend
mais intéressant,
tout
on peut peut-être mentionner, c'est pas vraiment un spoiler, ce qu'on comprend dans ce livre-là, un peu l'histoire de pourquoi pas recruter un Jedi trop âgé.
Ouais.
Parce qu'on a un exemple justement là-dedans d'un Jedi qui a été recruté à 5 ans, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Et ça a causé toutes sortes de problèmes. Alors que Anakin dans le film, il y a 10 ans, je crois.
Mm-hmm.
Donc, j'ai trouvé ça intéressant, là, cette référence-là.
Ouais. Exact. Puis moi, une autre chose que j'ai trouvé, qu'on comprend plus pourquoi que. C'est comment que c'était important la promesse que Qui-Gon a fait à Obi-Wan quand il est mort, que tu sais que Obi-Wan entraîne Anakin.
Mm-hmm.
Je trouve que ça a une nouvelle signification. Sans trop aller dans les spoilers, donc je suis désolé, je ne vais pas plus en détail que ça, mais vous allez comprendre. Il y a vraiment des petites choses justement que on comprend dans ce qu'on voit dans la menace fantôme. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ce que j'ai moins aimé, la relation Obi-Wan-Qui-Gon, c'est peut-être la façon que moi je l'ai interprété, là, mais ils s'aiment pas. Dans ce livre-là, ils s'aiment pas. Ils sont pas capables de sont tout le temps en conflit.
Mm-hmm.
Ils sont pas capables de travailler ensemble. Y a aucune affinité. Je veux dire, quand tu le regardes dans la menace fantôme, tu sais, oui, Obi-Wan, il questionne son maître. Mais tu vois qu'il respecte, tu sais, qu'il respecte au bout, puis que tu sais, il y a une certaine fierté de l'avoir comme maître et tout. Mais dans ce livre-là, c'est totalement inexistant.
Mm-hmm.
C'est à se demander comment qu'ils ont fait pour rester ensemble. Sérieux?
Je vais le mentionner là parce que c'est pas tant un spoilers, mais je me l'étais noté pour l'autre section. Mais justement, il y a une autre œuvre. Sorti quelques semaines avant Master and Apprentice, je sais pas si tu l'as lu, c'est un comics de la série Age of Republic,
mm-hmm.
celui sur Qui-Gon,
mm-hmm.
et justement, ben on est encore exactement dans cette situation-là, alors que le comics se passe beaucoup plus proche du film. Le comics se passe en moins 33, je pense, là, donc juste avant le film, et on a encore le même doute dans leur esprit, de Qui-Gon qui doute d'être le bon maître pour Obi-Wan, puis Obi-Wan qui doute d'être le bon apprenti pour Qui-Gon, même s'il le respecte, comme tu dis, là, énormément.
Ouais.
Mais ça aussi, c'est intéressant. Claudia Gray a ajouté justement, je pense que c'est Yoda, tu me corriges si je me trompe, qui mentionne à un moment donné l'intérêt de mettre deux personnalités aussi différentes.
Ouais.
Il dit qu'un Padawan, par définition, ça a tendance à se rebeller.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un ado, etc. Donc, ouais. Nécessairement, un Padawan, c'est rebelle. Donc là, si tu mets un rebelle comme Padawan d'un Jedi qui est déjà considéré comme un rebelle...
Ouais, c'est ça.
Ben, tu sais, ça va être un désastre. Fait que Yoda, il dit que ça prend un Jedi parfait, là, le by the book parfait comme Obi-Wan, pour justement éviter ça.
Ouais.
Pour éviter le dérapage, fait que c'est pour ça qu'il fait cette équipe-là, le Obi-Wan avec Qui-Gon. J'ai trouvé que l'idée était intéressante.
Ouais, puis tu sais, comme tu dis, Qui-Gon, c'est comme le maître Jedi rebelle. Puis pourtant, tu sais, il le considère pour qu'il fasse partie du Conseil Jedi.
Mm-hmm.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, pas l'intrigue, mais la partie entre Obi-Wan, Qui-Gon. Je trouve que c'est pas aussi bien adapté que ce l'était dans l'ancien canon avec la série Jedi Apprentice de Jude Watson, qui était une série de romans pour jeunes adultes. Écoute, j'ai aucune idée si t'es lu et que ça remonte à 1999, là, les années autour là, de la sortie de la menace fantôme. Là.
Ok.
Tu sais, dans le fond, l'histoire, en gros, c'était Obi-Wan, il était sur le bord de se faire sortir de l'Ordre Jedi. Et il allait devenir un fermier pour Agricor, la compagnie Agricor, qui était, dans le fond, c'est considéré comme un honneur, mais aussi comme une sentence parce que t'es pas assez fort pour être un Jedi.
Mm-hmm.
Fait qu'il y avait toujours cette tension-là que Obi-Wan voulait absolument réussir, puis qu'il voulait, tu sais, avec Qui, puis Qui-Gon faisait tout pour que Obi-Wan réussisse, puis qu'il puisse montrer que, tu sais, c'était vraiment un Jedi puissant, puis on l'a vu, là. Obi-Wan, c'est pas n'importe qui. Hein.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, il y a pas cette tension-là dans ce livre-là. Dans Master and Apprentice, j'ai trouvé que c'était, tu sais, ils sont en conflit, mais tu sais, ils se testent pas, puis tu sais, on sait pas trop, tu sais, est-ce que Obi-Wan réussit, est-ce qu'il réussit pas, tu sais, en tout cas, c'est peut-être parce que justement, j'avais lu, tu sais, moi, je suis comme l'ancien là, de la légende, tu sais, là. C'est pas que je compte le nouvel univers canon, mais je me rappelle des histoires qu'on avait dans l'ancien univers étendu. Donc, c'est sûr que je vais tout le temps comparer. Mais à part ça, j'ai trouvé la relation... C'est ça, je parlais de Obi-Wan, Qui-Gon qui s'aiment pas. Mais Dooku pis Qui-Gon s'aiment pas non plus, hein?
Non, exact. Je me demande, en fait, je pense que c'est pire. En fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est
ben, en fait, c'est que de la manière que Dooku est décrit, ça, je veux dire, il peut pas s'entendre avec personne.
Là, ouais, c'est exactement. Tu sais, puis pourtant, de la façon que Dooku parlait de Qui-Gon dans Jedi Lost, t'aurais pensé que, tu sais, il y avait beaucoup plus de respect entre les deux.
Mm-hmm.
Ce qui est pas le cas. Ben, du moins, pas si on se fie à ce livre-là.
Ouais. Ouais, je sais pas, c'est que dans ce livre-là, on n'a pas le point de vue de Dooku. Par contre.
Ouais, ça c'est vrai.
C'est vraiment le point de vue de Qui-Gon, puis à la limite de son autre apprenti, là, Rael Avaros.
Mm-hmm.
Moi, tu vois, je l'ai pas interprété comme de quoi de différent. C'est juste que du point de vue, un peu comme les enfants par rapport au professeur, ou tu sais, enfants-parents, tout ça. Tu sais, le parent, même si même un adulte froid, autoritaire, etc., va quand même être fier sans le démontrer des fois, là, tu sais, c'est que je l'ai plus interprété comme ça, là.
Ouais.
Quelqu'un qui est dur, justement, pour rendre l'autre personne plus forte. Mais ça, c'est peut-être aussi mon extrapolation.
Ouais, c'est ça. Je t'en ai mentionné un peu, le thème de l'esclavage. Je l'avais mentionné aussi, c'est quelque chose qui revient encore dans ce livre-là. Je trouve ça vraiment le fun que tu vois que les personnages veulent faire quelque chose à propos de l'esclavage au lieu de le laisser aller comme c'était quelque chose qui était normal. Donc c'est bon, ça je trouvais ça bon. Petite chose qui m'a un peu agacé, un peu, je pense c'était un côté aussi un peu moins intéressant de la prélogie, tout le côté politique. Même au moins dans la prélogie, le côté politique avait un sens. Hein. Donc, c'était la montée de l'empereur, la montée de l'empire. Mais ici, j'ai trouvé que c'était un peu très ordinaire. C'est pas le meilleur livre de Claudio Gray. C'est pas le meilleur livre de l'univers canon non plus. C'est pas mauvais. Là. C'est pas mauvais du tout. Je l'ai préféré à Dooku Jedi Lost. Je crois que c'est le contraire de toi. Mais bon, moi aussi je lui donne un 14 sur 20 et oui, dernier point, excuse pendant que je pense là. Une chose je voulais mentionner parce que j'en ai parlé au début avec Tron, la chose qui m'agace, qui commence à m'agacer avec cet univers canon là qu'on a en ce moment, surtout avec les livres, parce que le reste on a les séries télévisées et tout ça, il se passe rien de, il y a comme rien de dangereux. Comme tu disais, là, l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment dans un cadrage, puis ça sort pas du cadrage. Hein? C'est vraiment là, tout le monde survit à la fin, y a pas rien que tu fais comme oh mon dieu, ils ont osé faire ça. Ouais. Y a pas de ça. Ça aussi, je sais, je compare avec l'univers légende, mais tu sais, l'univers légende, tu sais, comme exemple, ils ont tué Chewbacca, ils ont tué Anakin, le fils de Han, puis Léa, tu sais, ils ont... Il manque ce sens-là, puis c'est pas juste ce livre-là, là, c'est juste c'est comme un feeling général. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas rien faire parce que, ah, mais là, on va peut-être faire une série là-dessus, une série télévisée. Tu sais, comme exemple, Tron, tu sais, les livres de Tron, là, de Timothy Zahn, j'ai l'impression que, tu sais, ah oui, c'est super bon, c'est des super bons livres parce que c'est très bien écrit. Mais il y a, tu sais, on sait là, qu'on va pas savoir ce qui arrive à Tron. À la fin, parce que dans Rebels, ça laisse sous-entendre que peut-être, puis ils l'ont dit assez souvent que Dave Filoni, c'est lui qui a le dernier mot là-dessus. Fait que tu sais, c'est pas Timothy Zahn qui va conclure l'histoire de Tron.
Non, non, mais écoute, t'as tout à fait raison, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement quand on entend la comparaison du canon au niveau littérature. Puis il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Puis la première, c'est que l'époque des livres légendes, ben c'était la seule chose qui sortait.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y avait effectivement souvent des combats épiques, des situations épiques. Des fois, c'était plusieurs générations dans le futur ou dans le passé, etc. Donc ils pouvaient se permettre des choses beaucoup plus épiques. Alors que là, comme tu dis, ils vont garder les choses pour d'éventuels projets de télé, cinéma, tout ça. Tu sais, comme tu dis, il y a des personnages qui meurent, ben là, de quoi d'aussi grave que la mort de Han Solo, ben, elle n'arrive pas dans un livre.
C'est ça.
Elle arrive au grand écran, tu sais.
Exact.
Fait qu'il y a cet aspect-là qui est différent d'avant. Puis, il y a les personnages aussi. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est une réflexion que je m'étais faite aussi, c'est que, tu sais... une partie de l'intrigue du livre, c'est autour de la relation Qui-Gon-Obi-Wan, puis que est-ce qu'ils vont vraiment être capables de continuer à travailler ensemble. Mais tu sais, on l'a vu l'épisode 1. On le sait là qu'ils vont pas se séparer.
Spoilers.
Donc... Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est certain que même chose par le Tron. Ben là, tout ce qui se passe avec Tron avant la série Rebels. Avant, je sais pas si... Non, je spoilerai pas la fin de Rebels d'un coup, il y en a qui l'auraient pas écouté. Moi, je vous dirais, écoutez ça, ça vaut la peine. Mais t'as raison, il peut rien arriver de complètement, là, vraiment surprenant avec Tron, parce qu'il est dans la série télé qui se passe après. Donc, c'est sûr que ça limite, t'as raison. Ça limite, à mon avis, grandement la liberté des auteurs.
Oui.
Puis tu vois... Justement, ce qui est rafraîchissant avec les rares œuvres qui ont plus de liberté, ben ça paraît tout de suite, c'est frappant, puis tout le monde accroche. Je pense entre autres aux séries de comics de Docteur Aphra, que un petit personnage sorti de nulle part, là, qui se serait attendu qu'elle se ramasse avec sa propre série, puis qu'elle soit plus populaire que la série Vador, que la série Star Wars, etc. Mais c'est parce qu'elle a une totale liberté. C'est un nouveau personnage qui peut faire toutes sortes de conneries inimaginables en dehors complètement de la saga Skywalker.
Ouais, parce qu'on sait qu'elle va pas se retrouver dans un des livres ou pas des livres, excuse, dans un des films dans ou films. Dans une série télévisée. Elle apparaît, ça va être vraiment comme juste comme un Easter egg, là, un fan service. Ça sera pas comme excuse.
C'est ça. Ah non, c'était pour. J'allais dans le même sens que toi, tu sais. Je comprends tout à fait, là, moi, la critique que tu fais là, on l'entend souvent. Elle est évidente que pour ceux qui lisaient les légendes, ça peut pas être le même style. Parce que c'est ça. Avant, le gros du développement du lore de Star Wars, c'était en livre. Et Timothy Zahn, que tu as nommé plusieurs fois, y est pour beaucoup. Mais maintenant, c'est plus ça. Le gros, c'est les films. À la limite, là, bientôt, les séries télé.
Ouais.
Et les livres, c'est les à côté, c'est les bonus. Donc, je comprends la frustration du monde, mais c'est ça, faut le voir comme un bonus, comme un à côté. Ça peut pas être de quoi de révolutionnaire, là. En tout cas, d'ampleur galactique comme dans le temps des légendes.
Mais même pour un auteur, ça doit être frustrant aussi parce qu'il doit avoir plein de restrictions que. T'sais, ils peuvent pas, ça leur prend absolument des autorisations puis tout, puis en tout cas c'est pas
ça cool. C'est clair que le story group tous les auteurs, à chaque fois qu'il y a des, je suis sûr que t'écoutes des fois des entrevues d'auteurs toi aussi, à chaque fois peu importe lesquels, ils disent que le story group intervient pas vraiment négativement, tu sais, qui sont plus là pour donner des idées. Ah, tu pourrais utiliser telle référence, tel personnage de telle série télé. Néanmoins, c'est clair que tu sais, il y a un côté ça tu peux pas, ça tu peux pas. Tu nommais Dave Filoni tantôt. Tu sais, écoute, je pense que c'est déjà grandiose ce que Timothy Zahn a réussi à faire avec les personnages qu'il y avait dans Rebels. Je pense entre autres à Tron, évidemment, mais aussi à Amanda Price, tu sais, dans le premier Tron.
Ah ouais.
Donc, mais c'est sûr que c'est frustrant. Là, il doit y avoir toute une trollée de choses qu'ils n'ont pas le droit de dire, pas le droit de toucher, pas le droit de. Fait que.
Ah, mais
pour revenir
à
Master and Apprentice, tu sais, c'est ça. On parle de. Le canon était vierge, comme tu disais tantôt, pour ces deux personnages-là. Et t'as raison, ils ont changé un peu la version de leur relation. Mais je trouve, tu sais, mettons, moi je me suis dit, je vais l'analyser en faisant abstraction de ce que c'était dans les légendes, parce que je connaissais, même si j'avais pas lu les livres dont tu parlais tantôt, j'avais étudié leur histoire, on va dire, je la connaissais déjà, mais je me suis dit, cette version-là, je la déteste pas non plus, je trouve ça intéressant, vu leur différence de tempérament dans le film, que cette différence de tempérament-là, mettons 8 ans avant, puis quand Obi-Wan en plus est un ado, je trouve ça intéressant que la différence, puis tu sais, que le choc des personnalités soit encore plus grand.
T'sais. Ouais.
Fait que, mais je pense qu'on est quand même sur la même longueur d'onde sur notre appréciation générale du roman.
Ouais, c'est ça, exact. C'est comme je disais, c'est un livre qui est quand même intéressant à lire. Puis si vous aimez Claudia Gray, ben encouragez-la. Achetez le livre, ou du moins lisez-le, parce que elle est une des meilleures auteurs qu'il y a dans cet univers canon là.
Mais c'est clair que ce que je décrivais tantôt, puis tu l'as dit toi aussi, ça va être le cas pour tout le monde après 3 gros succès. Tu sais, Lost Star, ça a été la méga surprise. Lien du sang, moi j'ai un petit peu moins aimé, mais écoute, ça a été un méga succès, je sais que beaucoup de monde considère que c'est le meilleur. Princess of Alderaan aussi, Leia Princess of Alderaan, ça a été une très belle révélation aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr là, qu'inévitablement il y a de l'appréhension, et puis qu'on le compare avec ses autres œuvres. Mais si on le prend à part, ça reste très bien écrit, ça reste très divertissant quand même.
Oui.
Je pense que c'est pas tout le monde que. En fait, j'ai pas vu aucune critique jusqu'à maintenant non plus, puis on. Ça fait un certain temps qu'il est sorti déjà, là, fait qu'il y en a. J'en ai pas vu ben qui dit « Ok, c'est le meilleur livre du canon. »
Non, c'est ça.
Je pense que le monde s'entend là-dessus, mais je n'ai pas vu à l'inverse qu'il démolisse non plus. Tandis que, tu sais, même Tron, je me souviens avoir lu des critiques qu'il démolissait. Moi, j'ai adoré, là.
Ouais.
mais tu sais, il y en a qui le démolissaient.
Ouais.
Ça, Master and Apprentice, j'ai l'impression que c'est peut-être... Il y en a quand même un peu pour tous les goûts dans ce livre-là.
Ouais, exactement. Ouais, c'est un bon point, ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Alright, donc, c'était nos critiques du livre Master and Apprentice. Donc, maintenant, nous allons aller dans la section spoilers, donc où nous allons discuter des choses que nous avons remarquées dans le livre. Donc, si vous voulez pas savoir ce qui se passe, arrêtez l'enregistrement ou arrêtez le podcast ici. Et vous pouvez revenir l'écouter une fois que vous aurez lu Master and Apprentice. Sinon, vous êtes avertis. Et nous, on y va avec quelques points que nous avons remarqués de l'histoire là, que nous voulons discuter. Alors, Francis, je te laisse diriger ça.
Ouais, ben dans le fond, on a déjà parlé quand même de plusieurs thèmes. On va peut-être juste pouvoir rajouter quelques détails. Moi, t'as parlé de l'invitation, puis de toute façon, c'est dans le synopsis aussi, là, mais l'invitation de Qui-Gon au Conseil Jedi.
Ouais.
Moi, c'est un élément, ça a été une belle surprise du début du roman pour moi. J'ai trouvé, puis le pire, c'est que ça vient qu'une deuxième surprise, c'est que Yoda est fermement opposé à ça. Fait que, tu sais... Mais évidemment, il se rallie à la majorité, là. Mais tu sais, c'est quand même hot là, de voir que le Conseil Jedi le fait pareil, même si Yoda est complètement opposé.
Ben, c'était la même chose pour avoir Anakin en tant que Jedi. À la fin de la menace fantôme, t'sais, Yoda, il dit le Conseil est d'accord que t'entraînes Anakin, mais il dit moi, je suis pas d'accord.
Il y a la franchise de le dire aussi à Qui-Gon là-dedans, de la même façon là, avec Obi-Wan
ouais.
dans l'épisode 1. Fait que tu sais, il est très clair avec Qui-Gon, puis il lui explique le pourquoi. C'est ça. Le fait que l'organe conservateur qui est le Conseil Jedi, tu sais, par définition, c'est un vieil ordre religieux, là, tu sais, donc nécessairement, c'est comme quand t'es un révolutionnaire au Vatican, là, tu te sens isolé un peu, là. C'est un peu le même principe. Mais il y a une certaine ouverture d'esprit de même donner quand même un siège de la plus haute autorité à Qui-Gon, qui est considéré comme un loose cannon, là, ouais, c'est un loup solitaire un peu. Fait que ça, j'ai trouvé ça surprenant et intéressant. On a abordé tantôt le sujet, mais la relation Obi-Wan-Qui-Gon, moi je m'étais noté, j'ai parlé du comics là, que je vous invite à lire d'ailleurs. Le comics de la série Age of Republic, je pense que, parce que c'était sorti au mois de janvier en anglais, en français je pense que ça sort bientôt, là, quelque part comme début septembre, donc en album.
Mm-hmm.
Donc je vous invite à lire ça, c'est bien intéressant. Donc il y avait un numéro spécial juste sur Qui-Gon. Je m'étais noté aussi, on parlait des frustrations d'Obi-Wan, puis tu sais, la relation entre les deux. Il y a Obi-Wan qui était frustré au niveau des enseignements de techniques de combat,
oui,
de Qui-Gon.
Oui.
Donc, c'est vraiment une relation d'homme, là.
Ouais,
quand
ouais,
tu regardes ça, les deux, là, les deux ont toutes sortes d'impressions, puis de doutes, puis de sentiments, mais ils s'en parlent pas, tu sais.
Ouais, c'est ça.
C'est tout à fait, là, une relation d'homme, mais c'est ça, Qui-Gon... ouais, en tout cas, on va dire Qui-Gon entraîne Obi-Wan au combat, mais l'entraîne sur la technique plus défensive. Et Obi-Wan interprète ça comme un manque de confiance en lui. Dans le fond, Obi-Wan pense que Qui-Gon n'a pas confiance dans ses capacités. Fait que c'est pour ça qu'il lui enseigne juste des techniques de défense. Alors que Qui-Gon, c'est le contraire, lui explique plus tard que il sait qu'il est promis à être un des plus grands guerriers Jedi, puis il veut juste qu'il maîtrise la technique défensive au maximum, justement pour survivre, puis pouvoir combattre plus longtemps, etc.
Mm-hmm.
Fait que j'ai trouvé ce petit bout-là bien intéressant. Je vais sauter à Rael, ou Rael, parce que à l'écrit, il s'appelle Rael, ouais. C'est juste qu'il se promène pas avec autant de femmes que notre Rael national.
Ouais,
mais
ça.
Bref, Rael Avaros, un ancien... Ben non, c'est encore un Jedi, mais qui se tient pas avec l'ordre Jedi, qui a plutôt accepté l'invitation d'être le régent sur une planète éloignée. Et c'est un ancien apprenti de Dooku, lui aussi. Et comme Qui-Gon, il pourrait pas être plus éloigné que Dooku en termes de personnalité.
Ouais, ouais.
C'est vraiment, là, j'allais dire un bohémien, mais pas tout à fait, en tout cas.
Ouais, un genre de gypsy.
Une tête... Ouais, puis une tête brûlée, là. Tu sais, le Conseil Jedi, il s'en fout. Les doctrines, là, les dogmes,
ouais, c'est...
Jedi, il s'en fout.
C'est comme un genre de hippie, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Comme je disais tantôt dans l'autre partie, il a été... j'allais dire adopté, là, mais intégré à l'ordre Jedi à l'âge de 5 ans.
Mm-hmm.
Donc lui, il connaissait sa famille, il se souvenait de sa famille, tout ça. Fait qu'il respectait pas les codes vestimentaires. Même une fois adulte, il est toujours habillé comme la chienne à Jacques. Tu sais, il est pas en tenue de Jedi traditionnelle.
Ouais.
Et c'est ça, le pire, c'est qu'il est régent d'une riche, quand même, planète, là. qui a de l'air d'un paumé, mais bref. J'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai trouvé que c'était... Tu sais, je cherchais dans ma mémoire, je repensais à tous les personnages Jedi passés. En tout cas, au moins aux humains. Et je me souvenais pas d'un Jedi avec ce type de personnalité-là.
Non.
J'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce genre de gars-là. Et la chimie avec Qui-Gon, je l'ai trouvé très intéressante. Tu sais, une chimie de vieux frères d'armes qui se respectent. Tu sais, des anciens collègues qui ont fait les 400 coups ensemble et plusieurs années plus tard se revoient, donc j'ai bien aimé ce bout-là. Sinon, bon, je mentionnerai pas le fait que ça vire à chicane un peu entre les deux, là, mais...
C'était comme prévisible aussi. Hein.
Ouais, exactement, parce que, bon, c'est ça, lui, il fait une fixation sur sa protégée, la future reine de la planète, là.
Fanny, ouais, c'est ça son nom? Fanny.
C'est Fanny, ouais. Mais c'est ça. Sinon, je m'étais noté plusieurs références sympathiques, là. Je ne ferai pas une liste d'Easter eggs. Je mentionnerais, mais tu sais, c'est évidemment on est dans la prélogie, fait que tu sais, content de voir qu'elle a connecté. Tu le disais tantôt, Claudia Gray, elle respire du Star Wars, fait qu'elle est excellente, elle connecte tout ensemble.
Ouais.
Mais elle nous a mis quelques petites références plus lointaines au niveau timeline. Puis une de c'est David Dupont, notre collaborateur outre-Atlantique, qui m'avait mentionné la référence. Je l'avais même pas, ben ça avait passé, puis tu sais. J'avais comme pas porté attention, mais les fatiers, les courses de fatiers, donc les espèces de chevaux de course dans l'épisode 8.
Ouais.
Bon, sont présents dans ce livre-là. Et je me souviens plus quel personnage, mais quelqu'un dit c'est sont en voie d'extinction, donc c'est peut-être la dernière. On est peut-être les derniers à avoir des courses de fatiers.
Ok.
Une affaire comme ça.
Mon Dieu, j'avais même pas porté attention.
Ouais, c'est ça, ça part. T'sais, c'est juste nommé là, rapidement. Là, ça. Fait que merci David pour ça. Évidemment, je vais parler du Kyber qui est pas un Kyber.
Mm.
Donc, et plus tard, on va dire après, on parlera de prophétie parce que c'est lié à ça.
Ouais.
Mais bref, il y a une nouveauté dans ce livre-là en termes d'éléments qu'on n'avait jamais eu vraiment dans Star Wars. C'est un cristal près du Kyber, mais c'est pas du Kyber. Donc, avec des propriétés similaires, mais pas aussi puissantes et... pas aussi
durable.
Ouais, puis je me souviens pas, je pense pas qu'il y avait de référence au fait que tu sais c'est connecté à la force comme les Kyber.
Ouais, là. C'est ça.
Mais puis là ben ça sert à créer des technologies puis des armes puis des toutes sortes d'affaires similaires aux armes aux armes des Jedi avec les Kyber, par exemple des boucliers qui déflectent les sabres laser. Donc, ça, je me suis fait la réflexion, par contre, que dans le nouveau canon, il me semble, il y a beaucoup de choses qui bloquent un sabre laser. Alors qu'autrefois, c'était impossible.
Ouais, c'est mais, à ce temps, ben, un sabre laser, c'est quasiment en train de devenir juste un épée ordinaire.
Ouais, ben, tu sais, t'as toutes les armes énergétiques. Ouais. Mais ça, ils avaient aussi dans les séries télé, tout ça. On parlait de Throne Alliances tantôt. Il y avait aussi une espèce de matériel, là, des armures de... Il faisait des armures de clones résistantes au sabre laser, là, à la grande surprise d'Anakin. En tout cas, bref, ouais. Ça m'a allumé ça. Mais tout ça pour dire que moi, cet aspect-là, tu sais, là, tout à coup, il y a un nouveau cristal Kyber, qui n'est pas un Kyber, mais qui permet toutes sortes de technologies qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et tout ça, le développement de matériel, des armes, des technologies uniques, parce que c'est nouveau, et en grande quantité, parce qu'il y a quand même une armée relativement nombreuse qui en est équipée.
Mm-hmm.
Je me disais, OK, ils ont tout fait ça là, en secret, dans leur petit coin. Tu sais, moi, j'avais une impression d'un vieux James Bond. Là,
oh, ouais.
Le gros complot, là, tu sais.
Oh, c'est vrai, hein?
Caché, là, tu sais, je me disais, Dr. No va sortir avec son chat, là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a cet aspect-là, mais bon, au-delà de ça, c'était quand même intéressant. Et pour revenir à ce que je disais tantôt côté prophétie, ben justement, il y a question de prophétie beaucoup
oui.
dans ce livre-là.
Oui, 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 oui.
Quand je disais tantôt, ceux qui triplent sur l'aspect spirituel de Star Wars vont être servis. Il y a beaucoup de prophéties, et une de celles-là que Qui-Gon découvre, ben, à part justement, je me souviens plus la totalité, mais ça dit le Kyber qui n'est pas un Kyber, blablabla. Et là, tout à coup, dans le roman, un moment donné, Qui-Gon, qui a toujours pris les prophéties un peu, tu sais, comment dire, comme un enseignement spirituel, ben là, il y a une des prophéties qui se réalise. Fait que là, ça change du tout au tout sa vision des prophéties. Il se met à prendre ça complètement au sérieux et au pied de la lettre, au point où Obi-Wan pense qu'il est complètement... là,
cinglé.
Qui a perdu la carte.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est... Bref, comment dire, ça vient un peu expliquer l'obsession de Qui-Gon pour la prophétie de l'élu plus tard dans l'histoire de Star Wars
mm-hmm.
avec Anakin. Mais c'est ça, comment dire, la majorité des prophéties, parce qu'il y en a plusieurs qui sont nommées, tu sais, c'est un peu comme quand tu lis ton horoscope, là. Ça peut s'appliquer à peu près tout. Là,
ou quand tu ouvres un biscuit chinois. Là.
Ouais, c'est ça. Là. Hey,
un biscuit de fortune, tu sais.
Ouais, ça parle vraiment de ma journée. Hein. C'est donc ben hot. Fait que c'est un peu le même principe. Il y en a plusieurs aussi, justement, que clairement, c'est des références au fait que les, tu sais, le retour des Sith, parce qu'à cette époque-là, il n'y a plus de Sith.
Oui.
Donc, il y en a plusieurs qui font référence à un retour des Sith. Tu vois, je m'en étais noté une là, qui disait justement quand les justes perdent la lumière, ben le mal disparu renaît ou quelque chose comme ça. Mais en notant ça, sur le moment, au mois de quoi, c'est en mars peut-être qu'il est sorti ce livre-là, j'ai plus la date exacte.
Ouais,
ça fait quelques mois déjà. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais pas fait le lien avec ce que je vais dire. Et là, certains ont traité là, de théoricien là, comme certains de nos collaborateurs qui aiment ça partir sur des délais. Mais depuis qu'on a eu la bande-annonce de l'épisode 9, c'est drôle, mais il y a plusieurs de ces prophéties-là qui me sont revenues en tête. Et cette époque-là où est-ce qu'il n'y avait plus de Sith et que là, les Jedi étaient surpris d'apprendre que Darth Maul existait, etc. Bon, ben, ça m'a fait penser à ça, le fait que l'Empereur va être de retour d'une façon ou d'une autre. J'espère pas d'une façon physique, mais bref. Fait que ça s'applique aussi là, à... T'sais, ça vient clore complètement les 9 films. Là. C'était ça la situation au début, c'est encore ça maintenant.
Ouais.
Et pas une créature, mais ouais, le diable, là, une fois qui était autrefois mort, va revenir. C'est ça que la prophétie a dit. Bon, fait que je sais pas si Claudia Gray avait eu des petits hints là, de l'épisode 9 au moment de l'écrire, ça m'étonnerait. Mais bon, qui sait.
Moi, la seule que j'avais retenue, c'est encore une fois, c'est subjectif et c'est tout chacun son interprétation, mais c'était celle en anglais, ça dit « He who learns to conquer death will, through his greatest student, live again. Mm-hmm. » Fait que dans le fond, tu sais, moi, c'est la façon que c'était interprété, là, c'est des questions d'interprétation, moi, je le voyais un peu comme Qui-Gon, ce qui lui arrive quand il meurt. T'sais, il réussit à conquérir la mort parce qu'il revient. Puis mm-hmm. il réussit à contacter Yoda, puis Obi-Wan, puis il réussit à continuer à les enseigner. Parce que même Yoda, c'est ça qu'il dit à Obi-Wan à la fin de l'épisode 3. Là, il dit, t'sais, pendant que tu es en exil, t'sais, j'ai un entraînement pour toi. Ton ancien maître Qui-Gon, il va t'enseigner telle chose. Fait que ça, je trouvais, mm-hmm. c'est cool, c'est une référence assez cool, comme quoi que, tu sais, un Jedi, il peut réussir à rester sous forme d'esprit, rester vivant, puis même si son côté physique est disparu, mais son côté spirituel est toujours là.
Ouais, ben, j'ai trouvé intéressant celle-là aussi. Je trouvais que ça faisait autant référence au Jedi qu'au Sith.
Ouais.
Ou en tout cas autant au côté lumineux que, tu sais, parce que côté Sith, bon là, Dark Plagueis, c'est plus canon, là, mais bref, même si on prend juste Palpatine, ou tu sais, comme là, il est de retour, est-ce que ça va être en contrôlant Kylo Ren? Est-ce que ça va être en contrôlant d'autres personnes?
Ouais.
Quand on regarde, je sais que la totalité de nos auditeurs vont pas avoir toutes lu les comics, mais dans les comics, il y a énormément d'histoires d'artefacts Sith qui se mettent à posséder. Dans le fond, c'est un ancien seigneur Sith qui possède l'esprit là, de quelqu'un d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, j'ai trouvé que ça s'appliquait autant à ça, côté Sith, que, comme tu dis, les différents Jedi là, en fantômes de la Force.
Hein. Ouais.
Mais sinon, dernière chose que je voulais mentionner, il y a deux personnages intéressants créés dans ce livre-là. C'est des... Comment dire, pas des contrebandiers, ouais, des genres de contrebandiers de cristaux, si on peut dire,
ouais.
De métaux précieux.
Ouais, ouais.
Et ils sont quand même relativement présents. On parlait du thème de l'esclavage tantôt. Puis tu sais, des histoires intéressantes, là. Entre autres, son nom m'échappe, mais un des deux avec un caractère un peu de cochon, un caractère fort. Mais on apprend qu'il a été élevé par des droïdes de protocole dans un vaisseau à la dérive.
Oui.
Il était le seul survivant, bébé, ou en tout cas vraiment jeune enfant.
Ouais.
Puis il a été élevé jusqu'à l'âge adulte par des droïdes de protocole.
Donc, pauvre lui.
Ça, c'est, imaginez la personnalité que ça peut donner. Mais la seule chose que j'ai trouvé plate, c'est que moi je trouvais ces personnages-là quand même intéressants. Puis quand ceux-ci se mettent à rejoindre, on va dire, les héros qu'on connaît, Qui-Gon puis Obi-Wan, ben tu te dis qu'à la fin de l'histoire, il va avoir, tu sais, une importance quelconque. Un peu, je parlais d'Amanda Price tantôt, Arinda Price plutôt, avec Tron.
Mm-hmm.
Tu sais, deux histoires en parallèle que tu te demandes pourquoi on lit ça, là, des chapitres sur Arinda Price, mais à la fin, tu comprends, ça vient s'embriquer. Ben là, cette fois-ci, je trouve que justement, l'embriquement à la fin est raté.
Ouais.
J'ai beau y repenser, j'ai l'impression que tout ce que ces personnages-là sont venus faire,
c'est absolument
c'est faire le taxi.
Ouais.
C'est
vrai. Hein?
C'est vraiment tout ce qu'ils ont fait, c'est charrier Qui-Gon puis Obi-Wan dans le vaisseau une couple de fois. Au final, tu sais, t'es enlèves du livre, ça change pas grand chose.
Non, c'est comme. Ouais, c'est vrai.
Pourtant, il y a du temps de mis sur la construction de ces personnages-là avec un backstory, etc. Fait que c'est ça, j'ai pas trop compris pourquoi ça tombe à plat comme ça à la fin, mais c'est peut-être quelque chose qui m'a échappé aussi. Mais ça n'empêche pas que c'était des personnages très intéressants. Peut-être que, qui sait, on va peut-être les voir passer dans une autre œuvre là, éventuellement. On l'a pas, je suis pas sûr que je l'ai mentionné au début, mais Rael Averroes, notre super Rael, lui, on l'a vu passer dans Dooku Jedi Lost. Donc déjà, lui, c'est un personnage que l'auteur de Dooku Jedi Lost envisageait un nouveau personnage et la collaboration avec Claudia Gray a fait « Bon, ben, quand je vais l'intégrer dans mon histoire, tu sais, au lieu de l'autre. » Puis, fait que ça, je trouve ça intéressant quand, justement, t'as comme des récompenses en tant que lecteur, tu sais, de « OK, c'est le personnage que j'ai lu dans le livre il y a 2 ans, tu sais, mettons. » Puis, fait que ça, c'est toujours très apprécié. Sinon, je sais que toi, tu t'avais noté l'intérêt pour d'autres personnages. Ou ça?
Ouais, ben, je l'ai juste mentionné, Fanery. Fanery, qui est la reine de la planète Xerka. Non, pas Xerka, ce que c'est juste là. Pillage. Mm-hmm. Donc, elle est. Donc, comme tu disais, c'est Rael qui. Pas la dirige, mais qui la conseille. Avec l'entreprise là, qui s'appelle Xerka. Puis, ce qu'on apprend, c'est que pendant tout ce temps-là, que les autres sont sur la planète et tout, elle est en train de comploter contre eux. Puis à la fin, ben elle rejette les idées de la République. Elle rejette ce que Xerka peut amener à sa planète. Elle déclare que son peuple va rester en isolation. T'sais, ils vont rester indépendants puis en isolation. Puis c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'elle fait beaucoup de références à Alderaan, à Naboo. Qui laissent leur reine au roi ou reine là, leur monarche diriger à leur façon leur planète sans avoir la pression soit de la République ou de n'importe quelle autre corporation là, qui essaie de s'installer comme on a vu avec Naboo là, dans l'épisode 1 quand la Fédération du commerce essaie de prendre le contrôle là.
Mm-hmm.
Donc, je trouvais qu'il y avait un genre de parallèle entre Fenry et Padmé, même si Fenry n'est pas vraiment l'héroïne que Padmé est. Même Claudia Gray l'a décrit un peu comme étant comme la vilaine de l'histoire.
Mm-hmm.
Je trouvais que c'était un parallèle un peu. C'était un parallèle avec Padmé, mais c'est qui ont été dans deux opposés totalement différents.
Mm-hmm. Ouais, elle a priori sa planète et son peuple.
Ouais, c'est ça.
Et ça, je dis son peuple, là, mais son pouvoir personnel aussi.
Ouais, c'est exactement. C'est
la monarchie absolue.
Là. Ouais, exactement. Elle, c'est ça. Elle, c'est pas le genre la démocratie pis tout. Là. Par ça, qu'est-ce que j'avais. Ah ouais, juste pour venir 2 secondes à la prophétie. Les prophéties. Moi, une chose que j'avais remarqué de Dooku. C'est que Dooku essaie beaucoup de changer les prophéties. Surtout la prophétie de l'élu, il essaie vraiment de changer son interprétation, ou du moins, de la façon que la prophétie est pas lue, mais qu'elle est écrite. Lui, il essaie beaucoup de changer de la façon, son interprétation. Puis il essaie beaucoup de le faire. Comment je peux dire ça? Il essaie beaucoup de faire mettre son interprétation comme étant l'interprétation de la prophétie. Donc, c'est son interprétation qui devrait être la bonne.
Ouais.
Il y a une autre.
Ouais, ben c'est, il est décrit comme étant ou ayant déjà été obsédé carrément par les prophéties aussi.
Ouais, c'est ça. Une autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est les différentes interprétations du Code Jedi. Je sais qu'on a parlé des prophéties, mais c'est la même chose pour le Code Jedi. Donc, chaque Jedi a plusieurs Jedi qui sont dans le livre. Là. Chacun interprète le Code d'une façon différente. Donc, ça aussi, c'était intéressant parce que c'est plus... Puis, c'est intéressant, mais d'un autre côté, je pense que ça va un peu dans le sens que Disney est en train d'amener, c'est que les Jedi et la Force, c'est plus noir et blanc, c'est gris maintenant. C'est vers ça que l'épisode 9 s'en va. Excuse pas l'épisode 9, mais je veux dire la trilogie, la nouvelle trilogie. Je pense que c'est là, c'est dans cette direction-là que ça s'en va. Puis, on l'a remarqué aussi avec Dooku Jedi Lost. Je sais que c'est Disney les propriétaires à ça, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la série. Là. Mais moi, je trouve que ça va un peu en l'encontre de ce que George Lucas avait fait ou essayait de faire. T'sais. Ce que, dans le fond, ce que George Lucas essayait de faire, c'est que les Jedi ont leur doctrine, puis ils sont. Ben, c'est comme n'importe quelle religion, hein, t'as tes croyances, t'as tes idées, puis c'est pas nécessairement les bonnes. Puis on l'a vu, ça a joué contre eux autres, puis ils ont été anéantis à cause de ça. Mais là, c'est plus là, comme ah, là, t'es un Jedi, t'es un Sith, là, t'es un gris. Ça veut dire que tu peux faire des. T'es une bonne personne, mais que c'est correct que t'aies des pensées très obscures ou que tu fasses des actions qui sont un peu. Pas borderline, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, là, c'est que.
Ouais, discutable.
Ouais, tu vas faire des actions.
Ben, t'as raison, c'est plus l'époque où la Force, c'était vraiment binaire, là, noir et blanc.
Ouais.
Et, ben, tu sais. Ça va dans la ligne aussi de ce que Dave Filoni avait fait avec la série Rebelle.
Ouais, c'est vrai.
La série Rebelle, ouais. La série de Clone Wars, puis même affaire après avec Rebels.
Mm.
C'est une construction depuis un bon 10-12 ans, l'air de rien, là, quand si on inclut Clone Wars, que vraiment la force, c'est une espèce de force de la nature, si on peut dire. Puis après ça, ceux qui l'interprètent, ben ils peuvent l'interpréter. Mais c'est vraiment là. C'est vraiment devenu l'histoire de la dualité. Là, t'as qu'il y a de tous les temps dans l'histoire de l'humanité, là, les bonnes valeurs, les mauvaises valeurs. Soit on fait le choix d'un côté ou de l'autre,
ouais.
Mais que des fois, faut faire le bien, il faut faire un peu de mal pour le bien ou vice-versa.
Mm-hmm.
Fait que t'as le côté très yin-yang là-dedans.
Ouais.
Mais ouais, t'as raison. À savoir, par contre, si c'est... pas dans le même sens que Lucas, je sais pas, parce que Lucas était encore aux commandes à l'époque de la série de Clone Wars.
C'est vrai.
Fait qu'il avait déjà entamé un peu, tu sais, avec les histoires de Mortis, là, tu sais, puis de... Fait que... je sais pas. Puis de toute façon, Lucas aussi, avait l'histoire des midi-chloriens, hein, puis des... Fait que bref, mais t'as raison, autrefois, je suis parfaitement d'accord, c'était beaucoup plus binaire, c'était plus simple. Là, ça complexifie ça. D'un autre côté, ça peut-être ça la rend moins justement enfantine ou moins, tu sais. Parce que c'était au début aussi, c'était ça, Lucas, ça restait des contes principalement pour enfants. Le but était de leur donner des modèles, tu sais, de lumière et de et de d'ombre. Tu sais, t'avais les gentils rebelles et les méchants de l'Empire.
Ouais.
Les gentils Jedi, les méchants Sith, etc. En tout cas, ça s'inscrit clairement dans cette lignée-là. C'est pour ça, quand que je disais tantôt, ceux qui trippent sur l'aspect spirituel, justement, puis tout ce qui tourne autour de la Force, écoute, c'est vraiment un must pour eux autres, là, ce livre-là.
Ça me fait penser un peu à, puis je sais pas si tu l'as lu, la série Legacy, la série de la BD. Pas la série de roman, mais la série de BD de Dark Horse.
Non, je n'avais juste lu un ou deux dans le temps.
Qui était sur le futur, c'était comme 100 ans après le retour du Jedi. Ça mettait en tête Kate Skywalker, qui était genre le petit-fils de Luke Skywalker, une enfant de même. Puis, ça aussi, dans cette époque-là, c'est beaucoup plus gris. T'as encore les Jedi, t'as encore les Sith. Mais là, t'es comme entre les deux qui est comme les chevaliers impériaux. Donc, c'est pas des Jedi, c'est pas des Sith, c'est comme des entre-deux. Donc, tu sais, on dirait, tu sais, qu'il y a beaucoup d'inspiration de ça, qui est intégré dans l'univers canon là, ces dernières années.
Ouais, tu sais, juste la complexité du personnage de Kylo Ren comparé à celui de Vader. Bon, évidemment, je parle pas de Vader une fois après 30 ans de construction de personnage.
Ouais.
Je parle du Vader vraiment de la trilogie originale, là, sans tous les livres, sans tout ce qui est venu après. Là. Tu sais, où est-ce que c'était, je veux dire, c'était pas très compliqué jusqu'à la fin du Retour du Jedi, là, sa personnalité. Alors que là, Kylo Ren, tu sais, il est très ambivalent, il est très changeant. À un moment donné de l'épisode 8, on se demande même s'il va pas virer.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, il va redevenir Ben Solo, en tout cas. Fait que, non, c'est vraiment une construction. Écoute, c'est des choix que le Story Group a fait, clairement.
Mm.
Une ligne éditoriale.
Ouais, exactement.
On a notre leader suprême qui nous a laissé aussi ses remarques. Je sais pas si tu veux les lire.
C'est notre succès de Claudia Gray, à son avis, mais c'est pas son meilleur livre. Son commentaire est pour continuer ici. Pour la première fois en roman canon Disney, nous en apprenons sur la relation difficile entre Qui-Gon et Obi-Wan, qui ont tous les deux un style différent. L'évolution des personnages lors de la mission sur pigage va vraiment les rapprocher et leur permettre de se comprendre et d'apprécier les qualités et les défauts de chacun, surtout après qu'Obi-Wan apprenne que Qui-Gon va l'abandonner pour être membre du Conseil Jedi. J'ai apprécié la storyline en parallèle sur l'holocron des prophéties et l'intérêt de Qui-Gon et son maître Dooku envers cet artefact. Je me suis amusé à relire les prophéties et identifier certains moments de la saga autres que celle de l'élu. J'ai pas écouté l'audio-drama Dooku encore, ni notre critique, mais j'imagine qu'il y a un lien entre les deux œuvres qui poursuit sa descente vers le côté obscur. Parlant de descente de Jedi déchu, le Jedi Rael Avaros est un autre bon exemple d'un chemin similaire à celui d'Anakin Skywalker, qui voulait protéger Padmé à tout prix. Avaros, qui a aussi été un padawan de Dooku, ne veut pas échouer comme protecteur et conseiller de la princesse Fanry jusqu'à son couronnement officiel. Cette obsession met un voile sur la réalité qui l'entoure et c'est le devoir et l'amitié envers la jeune princesse qui l'aveugle. Avaros va souvent contre les règles du conseil. Il est complètement reckless et sans loi. Puis à la fin, il décide de retourner sur Coruscant et poursuivre à nouveau le côté clair de la force. Une bonne boucle pour ce personnage. Une note, le fait que Rael a dû tuer sa propre padawan était une bonne idée pour créer son obsession. Spoilers d'ailleurs.
Ouais, effectivement.
L'histoire politique est entre un monde qui s'attache à la tradition et l'évolution commerciale pour le bienfait de la galaxie est, à mon avis, relativement bien ficelée. C'est un bon miroir de notre société où les grandes entreprises veulent tout contrôler et plient secrètement les règles pour leur bénéfice. J'ai beaucoup aimé les personnages de Pax et Ra'ara. Cependant, leur rôle dans l'histoire était à la limite inutile à part transporter Obi-Wan et Qui-Gon, comme tu avais mentionné.
Ouais.
Le lien du passé de Ra'ara et les esclaves de la lune de pigage a au moins augmenté un peu mon intérêt pour leur présence. Je trouve ça quand même original d'avoir un personnage humain élevé par des droïdes protocolaires. Je crois que ça n'a jamais été fait dans Star Wars. L'idée des artistes accusés de terroristes était vraiment bizarre. Je comprends l'idée de cacher l'identité des vrais usurpateurs, mais ce n'était pas nécessaire et pas un bon choix. Il y avait quelques idées intéressantes du côté de la technologie. Que dire de la nanotechnologie, les Slicer Darts, comme une arme qui transforme des alliés en ennemis, ce qui avait affecté la Padawan de Rael. J'espère revoir ça dans les futurs ouvrages, car c'est quelque chose que les Jedi ne peuvent pas facilement contrecarrer. Même chose pour ces faux kyber crystals utilisés pour créer des boucliers laser qui peuvent arrêter les lames de sabre laser. Je dois avouer que la révélation de la fin m'a surpris. Je m'attendais à ce que le coupable soit n'importe quelle personne sauf celle choisie. De ce côté, j'ai été servi. À noter aussi l'explication du pourquoi Obi-Wan n'aime plus voler piloter dans la prélogie. Ah oui, c'est vrai,
ouais, c'est on l'a pas mentionné. Ouais.
Au final, j'ai été diverti. Claudia Gray a légèrement échappé la balle lors de ce roman, mais j'ai été très diverti malgré tout. Je n'ai eu aucune difficulté à passer au travers du livre, même en faisant de longues pauses. C'est un mélange d'action, d'investigation, d'histoire et de politique qui devrait plaire aux fans de la prélogie et des deux principaux protagonistes. 16/20 est la note de Danny. Et c'est sur ça.
Assez, oui. Assez en, dans la même ligne que nous. Dans le fond, il y avait pas mal les mêmes observations que nous deux.
Ouais, hein. C'est, il a mentionné pas mal de choses qu'on a mentionnées. C'est bon de savoir qu'on est tous dans la même ligne.
Ouais, c'est ça. Puis ça fait avec les. Comme je disais tantôt, j'ai pas vu des critiques très éloignées l'une de l'autre non plus là, depuis la sortie du livre. C'est. Les gens ont pas mal toutes la même interprétation. C'est même limite bizarre, là, parce que souvent, il y a des personnes qui adorent un truc, puis les autres vont détester. Comme je disais, je pense que c'est parce que le livre ratisse large. Tu sais, il y a quand même un peu d'action, beaucoup de construction de personnages, etc. Un peu d'intrigue politique, mm-hmm. En tout cas, tu sais, c'est ça. Non, vraiment pour tous les goûts.
C'est vrai. Donc, c'est sur ce que nous allons terminer notre émission ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à notre email studio@starwars.direct, soit sur l'article de l'épisode qui va être sur notre site starwars.direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, compte Instagram ou notre chaîne YouTube. Prochaines émissions, donc il y a Star Wars en direct jeunesse numéro 2 qui devrait paraître dans les prochains jours. On a aussi en préparation, nous allons faire l'enregistrement de Star Wars Alphabet Squadron, la critique de Alphabet Squadron. Spoilers, c'est pas très bon.
Ah ouais, regarde, tu vois, un bon exemple. Moi, j'ai adoré. Fait que...
Alright, ça fait des bonnes conversations hein, quand on n'a pas les mêmes.
Exact.
Ensuite, on va aussi faire la critique de Tron Treason éventuellement. Et on a plein de petites choses super intéressantes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois là, qu'on veut faire, qu'on veut développer pour Star Wars en direct. On rappelle, toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord, donc si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez discuter avec nous, ben s'il vous plaît, allez sur notre page starwars.direct dans la section recrutement. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les différentes plateformes, donc iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie encore une fois nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Olonet, Cyclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, ainsi que le Space Trash Show. De la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.